Chapitre 4e. Le marquis de Fonlus revenait de la gare de Melun, ayant embarqué ses américaines dans l'express pour Paris, avec force bouquets de roses et force politesse, mais sans avoir l'air de se douter que la main de Miss Flora pût servir à autre chose qu'à donner des shake hands. En descendant de voiture, il poussa un petit soupir de soulagement et tira sa montre. « Encore une heure avant dîner, pensa-t-il, si je galopais jusqu'au Brett, je trouverai la mère et la fille à leur promenade et je leur dirai bonsoir sans mettre pied à terre. » Mais il avait compté sans l'imprévu, ou pour mieux dire, ce qu'il ne prévoyait que trop arriva plutôt qu'il n'y comptait. La femme de chambre de sa mère, la redoutable Joséphine, s'approcha de son pas silencieux de chatte sournoise et l'informa qu'il était mandé dans le cabinet de madame la marquise. Du plus loin que le pauvre garçon s'en souvenait, cet huissier de la verge noire avait été chargé pour lui de bien des citations du même genre. Autrefois, l'austère servante glaçait l'enfant d'une angoisse terrible par ses seules paroles, dites froidement, avec une vague pitié dans ses yeux ternes. « Monsieur Bertrand, madame la marquise vous demande. » À cette heure, elle n'était pas beaucoup plus rassurante, malgré le grand salut dont elle accompagnait la formule consacrée. « Madame la marquise désirait entretenir monsieur le marquis. » Pauvre Bertrand, il ne savait que trop sur quoi devait rouler l'entretien. Il monta l'escalier en comptant les marches pour gagner quelques minutes. Adieu la course au galop dans les avenues pleines de fraîcheur. Adieu le bon sourire épanoui de madame de Frézolles. Adieu l'attirante énigme des yeux bleus de Suzanne, toujours vibrant de pensée, toujours indéchiffrable dans leur mélancolie ou dans leur contentement. Il les voyait, ses yeux, en entrant chez sa mère. Bientôt, il les oublia. Ceux de la marquise, non moins beaux peut-être, ne laissaient pas chercher longtemps ce qu'il voulait dire. Elle commença par cet exorde ex abrupto qui fit pressentir à Bertrand que la séance allait être orageuse. « Mon cher ami, tu te moques de trois personnes depuis 48 heures. Parlons d'abord des deux qui ne te sont rien. Elles ont eu l'esprit de ne pas se fâcher, mais j'avoue que je les admire d'avoir si bien pris les choses, car entre nous, ta conduite à leur égard pourrait s'appeler de la grossièreté. « J'espère que non, répondit Bertrand, car de tous les reproches que je pourrais mériter, celui d'être grossier envers une femme serait le plus dur. Je demande à rétablir la situation. Que s'est-il passé? Deux étrangères, pas très connues à Paris, ceci à leur louange, ont voulu voir de plus près la société dont vous êtes, c'est-à-dire la bonne. Quelques billets de banque glissés dans vos mains pour vos bonnes œuvres leur ont ouvert votre salon. Je ne blâme personne, tout en regrettant l'époque où c'étaient les grandes dames qui descendaient dans la rue quand il s'agissait de charité et non pas la rue qui montait chez elles. Ces deux femmes vous ont plu, on se l'explique en les voyant, et sans doute les renseignements recueillis sur elles ont gagné votre confiance. « Mais oui, fit la marquise impétueusement, elles sont irréprochables, sans cela. » « De grâce, ma mère, ne défendez pas ce que personne n'attaque. Il n'y a point pour une jeune fille de recommandation plus flatteuse que d'être désirée en qualité de belle-fille par une femme comme vous. Mais la difficulté n'est pas là. Peut-être, avant d'inviter ces deux Américaines à venir visiter notre étalage, aurait-il été prudent de s'assurer que l'amour tiendrait la boutique. C'est à peine si j'avais vu cette jeune fille. Je ne lui avais pas parlé trois fois. » « Eh bien, voilà précisément pourquoi je vais organiser l'entrevue, pour qu'il te fût possible de lui parler tout à l'aise. »« Oh, pardon. » Quand il s'agit d'une demoiselle à marier de cette importance, le mot d'entrevue change de signification. J'imagine que notre maison est la 20e où Miss Flora s'est vue invitée, pour des motifs aussi désintéressés. On voit qu'elle en a l'habitude, et comme elle ne manque pas d'esprit et d'humour, j'incline à croire qu'elle finit par s'amuser de ces villégiatures, qui se ressemblent toutes. Le premier soir, un dîner préliminaire plastique, effet d'épaule d'un côté, de moustache de l'autre. Le jeune homme est amoureux fou au dessert. La soirée s'achève dans un flirt continu mais progressif, soit au billard, soit dans les coins retirés du salon, soit en plein air, dans les allées du parc, si la température le permet. Le lendemain, dans la matinée, promenade à cheval en tête à tête, déclaration du jeune homme, et ainsi de suite jusqu'à la grande scène de passion, une heure ou deux avant le départ du train, tandis qu'on descend les malles. Madame de Fonlus regardait son fils avec un étonnement qui n'avait rien d'admiratif. Quand elle jugea le moment venu, elle ramena l'entretien vers son sujet véritable par une saccade brusque. Tu trouves probablement ta tirade fort spirituelle. Mais je ne suis pas de ton avis. J'ignore si tous les jeunes gens qui recherchent la main de Miss Kingsley sont ridicules de la façon que tu viens de les dépeindre. Dans tous les cas, tu l'as été à ta façon plus que les autres, et tu m'as mise de moitié dans ton jeu. Fallait-il me battre les flancs pour paraître ensorcelé? Est-ce ma faute s'il m'est impossible de voir en cette charmante fille plus qu'un charmant camarade? Et vous, ma mère, vous qui savez que le mariage m'attire peu, déjà, n'auriez-vous pas dû prévoir qu'une grosse dot ne suffirait point à opérer ma conversion? Je n'ai pas besoin d'épouser une femme riche, Dieu merci. Tu en as besoin, tout au contraire. Il y a pour les fortunes un chiffre funeste, le nôtre, 80 000 francs de rente. On est déjà tenu au train de l'existence supérieure et l'on n'est pas à même, en réalité, de garder son rang. Au moindre accroc dans les revenus, à la moindre dépense imprévue, voilà un déficit pour le budget. Regarde les choses de près, tu verras que nous vivons de privations. Tu n'as pas d'équipage de chasse, tu te tiens à l'écart des élections. Je compte les dîners que je donne, et cet hiver, je me suis rabattu sur la comédie de salon jouée par des amateurs pour ne pas payer des cachets de 50 louis. Suppose une crise financière, le phylloxéra dans mes vignes de la Gironde, une querelle d'enfants pour toi, tu feras une belle figure avec les 80 000 livres de rente que je te laisserai un jour. Prends-en ton parti, mon cher Bertrand, tu as besoin d'un mariage riche. Et c'est pourquoi tes airs protecteurs de ces jours-ci étaient parfaitement grotesques. Tiens-le pour dit, et ne recommence pas. Reste à savoir si les héritières qui nous tomberont sous la main auront toujours le physique de celle-ci, je ne saurais te le promettre. Si longtemps qu'il convint à Madame de Fonlus de parler, jamais son fils ne s'oubliait à l'interrompre. Mais elle-même savait bien que cette condescendance ne devait pas être mise uniquement sur le compte du respect. Le défunt marquis partait comme une fusée à la première phrase de sa femme et baissait pavillon dès la seconde. Bertrand laissait couler les arguments sans rien dire et les reprenait un à un, posément, en homme que rien ne presse, mais que rien ne fera démordre de son idée. Il répondit avec le sourire un peu triste qui lui était presque ordinaire. « Voilà des questions fort au-dessus de mon expérience actuelle, et si je prétendais avoir une opinion en matière d'argent, c'est pour le coup que je serais grotesque, moi qui suis plus pauvre que mon cocher. Toutefois, je me demande à quoi peut servir la combinaison si vantée qu'on nomme un mariage riche. Mon père en a fait un. Il n'a jamais eu 50 louis vaillants dans sa poche. S'il en avait été autrement, nous serions sur la paille, mon ami. Ton père, le meilleur et le plus loyal des hommes, était un prodigue. Il a fini de se ruiner après m'avoir épousé. Le monde entier te le dira. » Oui. Mais il dira que le mariage avait enrichi mon père, seulement en apparence. Au fond, il restait pauvre, d'autant plus pauvre qu'il était, comme vous le disiez, la délicatesse et la loyauté même. Voilà pour lui. Quant à moi, qui ne suis pas un prodigue, je dois recourir à votre bonté pour la moindre dépense. Or, j'ai 28 ans, vous en avez 47, et sauf la difficulté de vos mouvements, votre santé est irréprochable, selon toute apparence. Et Dieu qui me voit connais mon ardent désir. Je resterai jusqu'à la vieillesse dans ma très heureuse indigence. Cette situation matérielle, quand on la compare à d'autres, n'est pas bien dure et j'en ai pris mon parti. Seulement, vous conviendrez que je suis moins préparé qu'un autre à apprécier les bienfaits d'un mariage riche. Voilà, ma mère, tout ce que j'ai voulu démontrer. Ton indigence, répondit la marquise en appuyant sur le mot, ne durera que jusqu'à ton mariage. À cette époque, je t'abandonnerai Fonlus avec la terre et les bois, le tout racheté de ma dot. Ainsi, ton sort est entre tes mains. Relativement, car je suppose que les avantages dont vous faites luire l'espoir à mes yeux sont subordonnés à votre agrément quant au choix de la personne. Ça n'a rien d'inquiétant. Je te connais, tu es incapable de mal choisir. Voyons, faut-il mettre Flora Kingsley au pied du mur? Après tout, elle n'a pas dit non. Bertrand répondit avec un éclair de gaieté passagère. En effet, elle n'a pas dit non, grâce à l'habileté que j'ai mise à ne pas lui en fournir le moindre prétexte. Je crois que tu plais à sa tante, reprit la marquise en affectant de ne point relever la plaisanterie. Hélas, elle me plaît aussi. Voilà bien ma chance ordinaire. Mrs. Sadwell est indolente. Elle parle peu, ne joue point au billard et au tennis, ne fume pas de cigarette. Enfin, elle ne s'appelle pas Flora. Quel dommage que le pétrole coule chez la nièce et non pas chez la tante. » Madame de Fonlus haussa les épaules et se leva de son fauteuil, avec la majesté dont elle déguisait son impotence prématurée. Allons dîner. Depuis longtemps, la cloche a sonné. » Elle parla fort peu durant le repas et regagna de bonne heure ses appartements, comme il arrivait toujours quand son fils l'avait tenu tête. Resté seul, Bertrand alluma son cigare, déplia quelques journaux, bâilla, se mit au piano et fredonna en l'accompagnant le morceau manuscrit dédié à sa mère qu'il retrouva sur le pupitre. « Voilà enfin de la musique !» se dit-il à lui-même en sortant sur la terrasse pour prendre l'air avant de se coucher. La lune était si belle qu'il descendit les marches du perron et s'enfonça sous les hauts marronniers. Il répétait à demi-voix, sans savoir qu'il chantait, « Si je vous le disais pourtant que je vous aime !» Et tout en achevant la mélodie, le jeune homme songeait. « Quelle soirée pour une promenade à cheval jusqu'aux brettes. Mais on y dort déjà, ce sera pour demain. »